Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous psycho. Alors devant le journal télévisé, un film romantique à la moindre critique ou devant une scène attendrissante, certaines personnes ont, comme on le dit, la larme facile. Pour autant, pleurer souvent n'est pas forcément le signe d'une dépression. D'autres facteurs peuvent être la cause de nos larmes de crocodile. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Jean Dorido. Jean, bonjour.
Bonjour Émilie.
Alors Jean, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes également le créateur de l'application de méditation Zenfi, chroniqueur en radio sur France Bleu ou encore Sud Radio. Vous êtes également dans l'émission Crimes et faits divers en tant qu'expert psychologue sur Énergie 12. Vous êtes également auteur du livre « Il y a de la magie en vous » aux éditions Dunod. Donc nous allons parler de ce sujet aujourd'hui, de nos larmes de crocodile. Première question, y a-t-il une différence entre hommes et femmes ?
Alors écoutez, manifestement, oui, c'est un fait que les femmes pleurent plus souvent que les hommes. C'est ce qu'observent les psychologues qui travaillent sur le sujet. Après, c'est toujours la fameuse question de l'inné ou de l'acquis. Est-ce que les femmes pleurent davantage parce que peut-être elles ont reçu une éducation qui encourageait l'expression des émotions, là où les hommes peut-être ont reçu une éducation plus dans le contrôle, on parle d'éducation genrée aujourd'hui, ou alors est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de génétiquement différent? Ça, pour l'instant, la science ne le dit pas. Maintenant, oui, c'est un fait, les femmes pleurent davantage que les hommes, ce n'est pas un mythe.
D'accord. Et alors, pleurer souvent est-il considéré comme un problème de santé mentale?
Alors, écoutez, non. Évidemment, heureusement que ça n'est pas un problème de santé mentale. Vous l'avez dit, Émilie, bien sûr que la dépression, c'est un problème de santé mentale et ça peut faire partie des symptômes, bien sûr, d'une dépression. Ça n'est pas du tout le seul, loin s'en faut. Et on raisonne beaucoup en psychologie dans ce qu'on appelle des observations différentielles. C'est-à-dire que vous avez décrit effectivement ces personnes qui ont la larme facile, comme on dit, et ça généralement, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que la personne, elle le sait très très bien, quel que soit son âge, elle sait qu'elle a cette sensibilité particulière. Et donc évidemment que ça n'est pas un problème de santé mentale. En revanche, quelqu'un qui n'a jamais tellement plus pleuré que ça, qui tout d'un coup, je dirais du jour au lendemain, va se mettre à pleurer pour un oui, pour un non, là, effectivement, ça peut être une alerte de dire, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Toutefois, en général, la personne s'en rend compte elle-même. Elle dit, en ce moment, je ne sais pas, ce n'est pas normal, il y a quelque chose, je pleure tout le temps. Donc, d'elle-même, en fin de compte, elle va faire une démarche pour tenter de comprendre ce qui se passe.
Très bien. Alors, y a-t-il des profils de personnes qui sont davantage sujets aux larmes?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on se rend compte, on en parle d'ailleurs de plus en plus souvent dans les médias, ces fameuses personnes dites hypersensibles, et c'est vrai, c'est un fait que nous avons des différences interindividuelles, même si nous sommes tous pareils, grosso modo, nous avons des différences interindividuelles, des personnes qui sont très grandes, d'autres qui sont de petite taille, il y a tout un tas. Et c'est pareil, finalement, sur les émotions. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très, très sensibles, qui vont vraiment... Être saisies quand elles vont entendre une musique ou quand elles vont même voir un paysage. Elles sont vraiment, effectivement, hyper sensibles. Et c'est vrai que c'est des profils qui vont peut-être avoir tendance à pleurer plus facilement. Et bien sûr que la question essentielle, c'est de savoir finalement comment la personne le vit, parce que c'est vrai que ça peut être fatigant, parfois, d'être en permanence dans une espèce de tourbillon émotionnel comme ça. Maintenant, ça peut d'ailleurs être l'occasion d'un travail avec un psychologue pour réussir finalement à se protéger de l'aspect fatigant des émotions pour ne garder que l'aspect utile. Ce sont des personnes qui souvent vont s'orienter vers des professions artistiques ou des dimensions avec l'importance de créer comme ça. C'est l'occasion de bien trouver la place qui vous convient le mieux dans le fond.
D'accord. Et alors, quelle peut être la signification des pleurs?
La signification des pleurs, ça effectivement, c'est généralement le résultat d'une émotion. Alors, la première émotion, c'est le chagrin, bien sûr. On a hélas tous connu la perte d'un être cher et bien sûr que ça va entraîner les larmes. Maintenant, d'autres émotions peuvent être à l'origine des larmes. On peut pleurer de rire. Et ça fait du bien de rire. C'est toujours, si vous voulez, lié à une émotion, même si dans certaines situations, on peut avoir le sentiment de pleurer sans raison. D'ailleurs, ça peut arriver si des personnes ont récemment arrêté de fumer. Étonnamment, C'est un fait, ça va dire des symptômes de guérison. Quand votre corps guérit du tabac, votre esprit guérit du tabac.
Fleur de joie.
C'est, non, mais ça peut arriver d'avoir quelques jours, hein, voilà, ça peut durer quelques jours, de pleurer sans raison, parce que c'est vrai que le fumeur, il fume tout le temps, quand il est heureux, quand il est malheureux, quand il est bien, quand il n'est pas bien. Et donc, finalement, quand il arrête, ça peut, voilà, étonnamment faire pleurer sans raison apparente. Ce sont encore une fois des symptômes de guérison. Il n'y a aucun danger à ne pas fumer, c'est important
bon
de
signe,
le rappeler.
Voilà.
Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez arrêté de fumer, si vous avez arrêté de fumer et que vous pleurez, c'est que vous êtes en train de guérir complètement et c'est très bien.
D'accord. Et alors, que révèlent des larmes à répétition?
Ben, encore une fois, c'est toujours un peu difficile de répondre comme ça, je dirais, à une question en général, parce que les larmes à répétition, en psychologie, on va se poser d'abord la question du contexte. Voilà. Cette personne qui a des larmes à répétition, depuis combien de temps est-ce qu'elle vit cette situation? Si c'est depuis son enfance, ok, elle est peut-être plus sensible que la moyenne. Si c'est depuis une semaine ou deux, la question suivante, ça va être, mais qu'est-ce qui s'est passé justement il y a une semaine ou deux, pour quand même identifier précisément ce qui se passe. Et des larmes à répétition, ça peut effectivement être le reflet d'une fragilité momentanée. Il faut comprendre d'où vient cette fragilité et puis aider la personne justement à sortir de cette fragilité pour justement retrouver un rapport aux larmes qui lui convienne pleinement et qui ne soit pas fatigante de par la répétition justement.
D'accord. Donc on peut pleurer et aller bien. Mais alors quelles sont les causes pathologiques ?
Ben, encore une fois, il n'y a pas vraiment de cause pathologique au fait de pleurer. Hein. C'est vrai qu'on a démarré vraiment là-dessus. Il n'est pas. Vous savez, c'est toujours en psychologie cette fameuse question est-ce que je suis normal ? Alors, vous allez voir votre psy. Est-ce que je suis normal, docteur ? Et ben, la réponse, c'est oui, évidemment. Par définition, vous avez deux bras, deux jambes, vous êtes normal. Après, bien sûr, il y a des réactions émotionnelles qui sont normales, et puis c'est vrai que si elles sont excessives et qu'elles vous empêchent finalement de vivre la vie que vous aimeriez vivre, là, ça devient problématique, et les psychologues ont différents inventaires. Il y a le DSM, notamment le DSM-5, qui va répertorier tous les troubles, voilà, qui sont observés sur cette terre, et donc on peut parler effectivement de troubles pathologiques. Si vous prenez par exemple la peur de l'avion, on peut dire bon, c'est normal d'avoir un peu peur en avion, et puis si vraiment ça devient un handicap, si ça vous empêche de prendre l'avion, là on va parler de troubles phobiques. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'êtes pas une personne normale, c'est juste que voilà, vous avez très peur de l'avion, c'est une phobie, et ça se traite en psychologie de façon très efficace. Sur les larmes, c'est un peu la même chose. C'est normal de pleurer. Après, voilà, la question, c'est est-ce que ça vous handicape ?
À quel moment on doit s'inquiéter, finalement ?
Dès lors que ça n'est plus confortable pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas. Simplement, si on veut dire à quel moment est-ce que ça vaut la peine de faire une démarche auprès de votre médecin, de votre psychologue, c'est dès lors que ça devient pour vous problématique, et notamment dès lors que ça va vous empêcher. Vous êtes, je ne sais pas moi, convoqué pour un entretien d'embauche, c'est un job qui vous plaît, vous êtes positivement excité à l'idée de faire cet entretien, et puis au dernier moment vous dites non, je ne vais pas y aller parce que j'ai peur de fondre en larmes par exemple, ou je sais très bien que dans ce genre de situation, à la moindre déstabilisation, je pleure et du coup je renonce, je n'y vais pas. Bon, là, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas accepter ça. Vous ne pouvez pas vous laisser bloquer par une capacité, je dirais, à pleurer supérieure à la moyenne. Donc là, ça vaut la peine vraiment de faire un travail, effectivement, pour que ce ne soit plus du tout un handicap. Et ça commence par travailler avec votre psychologue, justement, sur le fait que vous êtes une personne normale. Voilà, peut-être Rassurez-vous. Très sensible, peut-être très émotive et normale. C'est important de le rappeler.
D'accord, alors vous avez fait une petite transition parfaite pour ma dernière question. Justement, comment gérer les larmes quand elles prennent le dessus dans une situation pas commode, comme par exemple au travail ?
Écoutez, alors là, sans doute que si vous posez la question à deux psys, vous aurez déjà trois réponses différentes, hein, parce que chacun a son style. Maintenant, quand même, une grande, grande clé sur la psychologie, c'est d'accepter. Il faut bien se souvenir qu'accepter n'est pas renoncer. Au contraire, accepter, c'est déjà la première étape pour même sortir éventuellement du déni. Voilà, c'est accepter d'avoir, écoute, je pleure, voilà, très facilement, et ça m'embête, voilà. Et malgré tout, j'accepte ça, voilà. Et une fois que vous avez pleinement accepté ce truc-là, déjà mécaniquement, étonnamment, il est fréquent que ça réduise le symptôme, parce que voilà, finalement, ça fait moins peur. Et puis, dès lors que vous l'avez complètement accepté, vous pouvez justement le travailler, vous entraîner avec un psychologue, évidemment. Vous pouvez aussi le traiter avec des clubs d'improvisation théâtrale, parce que justement, vous allez vous entraîner. Vous savez, c'est un pilier de la psychologie et de la thérapie comportementale. C'est l'expérience qui va vous aider. Et plus vous allez faire une expérience dans un cadre sécurisé, plus vous allez progresser. Et typiquement, dans des clubs d'improvisation théâtrale, vous allez jouer avec ces émotions, vous allez pleurer pour jouer. Vous allez rire, vous allez rentrer dans des jeux de rôle qu'on peut faire en thérapie de groupe aussi. Et ça passe par l'acceptation d'abord. Accepter que c'est comme ça, voilà, nous avons tous nos fragilités, nous avons même parfois des handicaps, parfois ils ne se voient pas, ils ne sont pas visibles, et pourtant ils sont là. Et plus vous allez commencer par vous accepter pleinement tel que vous êtes, plus vous allez pouvoir travailler justement et faire évoluer, transformer la personne que vous êtes pour arriver à une version de vous-même, comme disent certains aujourd'hui, avec laquelle vous êtes davantage en paix. Voilà.
D'accord. Donc, pour résumer, on peut pleurer souvent et aller bien malgré tout. On est normal.
C'est pas grave.
On est juste un peu sensible. En revanche, dès lors qu'on commence à en souffrir, on n'hésite pas à se faire accompagner. Et je me permets donc de rappeler, Jean, que vous êtes tout à fait disponible en consultation privée. Oui. C'est cela. Donc, vous êtes disponible sur la plateforme Wengood, wengood.fr. Et également, donc, vous êtes joignable vous-même sur Doctolib, c'est cela?
Oui, c'est ça, exactement. Doctolib, ça marche très bien. L'assistante aussi, vous pouvez joindre par téléphone au 01 42 25 13 63. 01 42 25 13 63.
Jean, merci.
Merci, Émilie.
À bientôt.
À bientôt.